Le 5 juin dernier, Madame Virginie Rozière, députée européenne, recevait dans sa permanence au Corum une classe de lycéens pour un débat. Ce débat, quelle vision avez-vous de l'Europe et du rôle d'une députée ?
Grand événement à la fois pour la radio et peut-être pour l'Europe et certainement pour quelques lycéens, des lycéens donc de première ES du lycée Champollion. J'ai donc en face de moi, eh bien tout d'abord Margot. Margot, bonjour.
Bonjour.
Mourad, bonjour.
Bonjour.
Léa.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc Romain, bonjour.
Bonjour.
Donc la parité respectée, deux hommes et deux femmes. Vous êtes ici parce que dans quelques instants, vous allez assister à un débat, on va dire. Vous allez pouvoir poser des questions à Madame la députée européenne Virginie Rozière. Je crois que vous êtes déjà allée, je crois, à Bruxelles.
Oui, on allait visiter le Parlement européen.
Vous en avez retenu quoi ?
C'était dommage parce qu'on n'avait pas pu rencontrer Madame Rozière parce qu'elle n'était pas là. Donc on avait fait une visite de l'hémicycle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on était là pour la rencontrer vu qu'on n'avait pas pu lui poser nos questions.
Et aujourd'hui, avant ce débat, Léa, quelle est votre vision de l'Europe ?
Moi, l'Europe, ça m'intéresse. J'aimerais bien faire du droit plus tard. Et je trouve que toutes leurs idées, elles sont utiles. Et ce serait peut-être mieux même de continuer encore plus dans cette voie-là.
Romain, votre vision à vous de l'Europe ?
Moi, je pense que l'Europe, c'est bien parce qu'au moins, les pays peuvent s'entraider. Et puis, ça fait toujours... une union, c'est toujours mieux sur un continent. Même si des fois il y a certaines décisions qui peuvent être mal perçues selon les pays, mais je pense que ça peut être une bonne chose.
Mourad, j'ai oublié de demander un peu quel est l'âge moyen des 4 personnes qui sont là. Quel est le vôtre ?
Moi j'ai 17 ans, enfin je viens d'avoir 17 ans.
Et justement à 17 ans, juste pour vous, qu'est-ce qu'est l'Europe et qu'attendez-vous de l'Europe ?
L'Europe c'est un peu notre futur, vu que c'est nous qu'on va prendre la relève, donc on s'intéresse un peu.
Et vous vous intéressez principalement à quel sujet, si je puis dire ? Est-ce que c'est vraiment avoir une vision d'échange entre les jeunes que vous êtes ? Ou bien est-ce que c'est déjà un peu plus politisé ou plus économique ?
Romain ? Pour l'instant, moi je sais qu'à mon âge, c'est plus tout ce qui est échange entre les pays. Souvent, par exemple, au collège, on a déjà eu des échanges avec des étrangers venant d'Europe. Et c'est vrai que c'est toujours... c'est vachement important parce qu'on se rend compte, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une union quand même. Par exemple, avec la monnaie, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des étrangers qui payent avec la même monnaie que nous, ce genre de choses.
Léa, vous êtes donc étudiante, on va dire. Est-ce que vous envisageriez d'aller poursuivre vos études dans un autre pays que la France au niveau européen ?
Oui, j'ai déjà pensé, peut-être... un pays européen, peut-être même pas européen, mais c'est sûr que je vais voyager. Et l'Europe, ça facilite tous les voyages, tout ça. Et ouais, ça facilite.
Mourad, vous aussi, vous seriez prêt à quitter la France pour aller étudier, faire peut-être votre carrière dans un pays étranger ?
Éventuellement, oui, si j'en ai l'occasion. Par exemple, là, on peut voir que l'Europe, ça sert à beaucoup de choses, comme à faire des projets à grande échelle, entre plusieurs pays. Ça aide et tout, comme le train, TGV, tout ça.
Et autre question, Margot, est-ce que vous avez, vous, des échanges avec, effectivement, d'autres lycéens, comme le disait Mourad, sur d'autres projets, autres que les vôtres que vous pourriez développer au lycée Champollion, ou est-ce que pour l'instant, ça reste tout à fait hypothétique ?
Non, ça reste hypothétique parce qu'on n'a pas vraiment prévu de... Enfin, on n'a pas parlé vraiment de projets futurs dans l'Europe. Nous, on voit pour le moment ce qui est en ce moment en Europe, et puis on n'a pas encore vu ce qui pouvait s'envisager dans l'avenir.
Madame Rozière, bonjour.
Bonjour.
Dois-je rappeler que vous êtes donc députée européenne et parfois, dans l'esprit du grand public, on ne sait pas trop ce que fait une députée à l'Europe. Alors, en vraiment quelques mots, pouvez-vous nous résumer votre action ?
Eh bien, une bonne moitié du temps, je suis au Parlement européen, à Bruxelles ou à Strasbourg, où j'élabore les lois européennes, les directives européennes, avec en tête et au cœur les préoccupations des citoyens des régions sur lesquelles je suis élu, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et l'autre moitié du temps, justement, je reviens dans ces régions parce qu'il est aussi pour moi très important de garder le lien, le contact avec les citoyens et avec les préoccupations quotidiennes de ceux qui m'ont élu.
Et pour cela, vous avez donc choisi d'élire domicile, on peut-on dire, à Montpellier ?
Oui, exactement, parce que Montpellier, c'est ma ville, c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, où j'ai ma famille aujourd'hui. Une ville chère à mon cœur, et c'était pour moi naturel de revenir installer ma permanence à Montpellier.
Question qui va de pair, est-ce que ce n'est pas trop difficile ou est-ce impossible, justement, en fonction de l'emploi du temps que vous avez, tant au niveau, comme l'avait dit, à Strasbourg ou à Bruxelles et à Montpellier, de pouvoir être présente dans les larges régions que vous devez représenter, justement?
C'est un défi, c'est vraiment un défi. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est aussi parfois un peu frustrant parce que j'aimerais être à plus d'endroits à la fois, mais ça n'est malheureusement pas possible. Je suis régulièrement aussi dans les autres régions. Mais effectivement, 9 millions d'habitants, 18 départements, c'est beaucoup, beaucoup à couvrir pour une seule personne.
Quand vous dites temps et énergie, on va parler un peu de votre énergie. Justement, comment devient-on député européenne au sein d'un parti politique comme le PRG ?
Eh bien, avec, depuis toujours, je dirais, le goût de la politique, le goût de l'Europe et le goût surtout de l'action pour les autres et du service de l'intérêt général. Après, c'est un engagement pour l'Europe et pour le service du public qui m'ont conduit d'abord à aller à travailler au Parlement européen pendant 2 ans, et ensuite à choisir de m'engager en politique en 2012 au Parti radical de gauche, parce que c'est un parti dans lequel je reconnais les valeurs qui sont les miennes, la laïcité, la solidarité et bien sûr le goût de l'Europe.
Diriez-vous, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, que revenons un peu à la politique, si vous le voulez bien, et notamment à la politique française, semble se dessiner, on va dire, une droitisation de la gauche. Est-ce que vous le ressentez ainsi, ou est-ce que, du fait de votre engagement politique de femme de gauche, vous avez, malgré tout, certaines réserves à émettre par rapport à ce nouveau parti socialiste qui, on va dire, dérive quelque peu ?
Je ne dirais pas qu'il dérive. On est dans une situation économique difficile. Il y a une nécessité de redonner confiance aux acteurs économiques, mais donc en ça, c'est à ça que s'attache l'action du gouvernement, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment du progrès social et des conditions économiques et sociales des citoyens. Donc c'est effectivement un point de vigilance. On a en ce moment une discussion importante sur le dialogue social, une loi sur le dialogue social. J'espère vraiment que on ne sacrifiera pas les conditions du dialogue social à l'aide aux entreprises ou à la simplification pour les entreprises. La solidarité sociale, c'est aussi un facteur de développement économique.
Il faut dire qu'au Parlement européen, effectivement, il n'y a pas les mêmes clivages droite-gauche, puisque les partenaires se font beaucoup plus sur des idéaux ou des idées que sur des partis politiques.
Oh, on a des clivages politiques, simplement on a une droite bien identifiée, une gauche bien identifiée, on retrouve les couleurs politiques qu'on peut connaître en France. Simplement les équilibres politiques sont différents du fait de l'élection à la proportionnelle. Des mécaniques de coalition sont indispensables pour dégager des majorités. Contrairement à ce qu'on connaît en France avec un bipartisme plus ou moins tempéré par quelques groupes politiques, mais une majorité, une opposition clairement définie, au Parlement européen, on doit négocier, on doit construire des compromis et construire des majorités. Et c'est parfois difficile à comprendre que, par exemple, le groupe socialiste et démocrate discute avec le Parti populaire européen, l'équivalent de l'ex-UMP française, pour trouver un texte commun. Simplement, si on ne se met pas autour de la table et qu'on ne discute pas, à ce moment-là, on n'arrive à rien, aucun résultat, aucun n'arrive à construire seul une majorité. Donc C'est une autre manière de faire de la politique qui demande un réel talent de négociation, mais aussi de garder bien présent quelles sont les lignes rouges, les axes fondamentaux auxquels on doit se tenir et avec lesquels on ne doit pas concéder de recul trop important.
Faut-il dire également que vous êtes tenu de négocier, comme on le disait justement, avec 28 pays et 28 conceptions différentes peut-être de la politique également?
Oui, bien sûr. Il y a une dimension nationale dans les décisions du Parlement européen. Sur certains sujets, d'ailleurs, on retrouve des clivages qui sont plus des clivages nationaux que des clivages partisans. C'est sur quelques sujets, mais quand même de manière générale, le socle commun, les idées communes, elles sont partagées par l'ensemble des délégations nationales dans le groupe politique auquel j'appartiens. Et d'ailleurs, nous partageons, vous parliez justement d'équilibre entre les questions économiques et les questions sociales, nous partageons dans le groupe socialiste et démocrate européen la conviction que aujourd'hui l'Europe souffre de l'absence d'une dimension sociale dans ses politiques. Et je pense que le gouvernement français serait moins seul si l'Union européenne se décidait aussi à avancer résolument dans le sens d'une Europe sociale.
Vous voulez dire par là, il y a une avancée peut-être qui vient d'être faite, c'est également pour une fois un SMIC en Allemagne.
Oui, mais d'ailleurs c'était un des axes forts de la campagne qui est d'avoir au niveau européen un SMIC partout dans tous les pays de l'Union européenne et que ce soit décidé une obligation européenne. Alors l'Allemagne l'a mis en place, c'est effectivement une avancée importante dans le sens d'une Europe sociale. Ça montre aussi qu'une coalition droite-gauche peut conduire à des avancées sociales. L'Allemagne aujourd'hui est en coalition entre la droite et la gauche, c'était un axe fort, une revendication extrêmement forte de la gauche allemande, et on voit qu'on peut obtenir des résultats de cette façon. Mais moi, je souhaiterais que l'Union européenne avance encore plus dans le sens de la définition d'un socle social commun. Nous discutons depuis longtemps de la possibilité d'une assurance chômage européenne, et je pense que ce serait une manière forte pour l'Europe d'incarner le fait qu'elle est aussi attentive et soucieuse du bien-être de ses citoyens.
Puisque nous parlons d'Europe, vous n'ignorez certainement pas que M. Cameron a décidé de faire un référendum justement sur le maintien ou le non-maintien du Royaume-Uni à l'Europe. Vous avez un sentiment à ce sujet ?
Mais en fait, on est en ce moment dans une situation difficile pour l'Union européenne. Je pense qu'on est dans un moment crucial de la construction européenne, qui est de savoir est-ce que l'Union européenne décide d'avancer pour résoudre les déséquilibres qui sont les siens aujourd'hui dans le sens de plus d'intégration, plus d'Europe, plus de construction européenne, plus de solidarité européenne aussi, parce que c'est aujourd'hui ce défaut de solidarité européenne entre les États, entre les peuples européens, qui fait que, par exemple, la situation de la Grèce clive, oppose les peuples européens, là où il serait dans l'intérêt de tous les Européens aujourd'hui d'aider et de soutenir le peuple grec qui a traversé 5 années particulièrement dures. À l'opposé, vous avez la revendication de la Grande-Bretagne qui souhaite, au contraire, moins d'Europe, un recul de la construction européenne, un détricotage progressif de l'Union européenne. Et à mon sens, si l'Europe s'engage dans cette voie, ça présage de réelles difficultés et de réels dangers pour l'Union européenne. Et à mon sens, il n'y a pas plus de raison d'accéder aux demandes de M. Cameron que d'accéder aux demandes d'aide du peuple grec. Donc, on doit discuter avec la Grande-Bretagne. Après tout, pourquoi pas imaginer un noyau dur de l'Union européenne qui soit plus intégré, plus solidaire, qui avance dans le sens d'une construction, et puis, on va dire, permettre un maillage plus lâche avec des pays périphériques, mais qui auraient alors beaucoup moins d'influence et beaucoup moins de poids dans les décisions qui seraient prises au niveau de l'Union européenne. Mais il faudra aussi qu'à un moment donné, la Grande-Bretagne prenne ses responsabilités et les dirigeants européens doivent aussi refuser une certaine forme de chantage qui est quand même brandie depuis Mme Thatcher par la Grande-Bretagne.
Vous parlez de responsabilité de Grande-Bretagne. Au niveau européen, il y en a peut-être une qui se pointe, on en parle depuis maintenant pas mal de temps, c'est l'entrée de la Turquie.
On parle beaucoup de l'entrée de la Turquie depuis longtemps. Le général de Gaulle parlait déjà de la vocation européenne de la Turquie. Simplement, ce que je constate, c'est que le processus d'adhésion est très long et que la Turquie n'en est qu'aux tout premières prémices. Donc l'entrée de la Turquie n'est clairement pas à l'ordre du jour dans les années à venir, mais pour un bon moment. Et puis la question de Chypre, qui est aujourd'hui occupée pour moitié par la Turquie, est un obstacle aujourd'hui insurmontable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais c'est une question qui mériterait d'être posée autrement qu'elle l'a été dans le débat public, où elle est trop souvent instrumentalisée pour faire peur, pour donner une image faussée de l'Europe qui est totalement relève d'une totale manipulation.
Revenons-en un peu quand même à notre région, parce que vous avez souhaité, et vous le manifestez, et vous le défendez ardemment, qu'il y ait une appellation géographique des produits.
Oui, c'est quelque chose d'important pour la région, mais pour toute la France et pour toute l'Europe. Partout en Europe, on a des produits emblématiques qui sont des produits... Alors les produits agricoles, aujourd'hui, sont protégés. On connaît les AOC pour le vin, le fromage. C'est une protection européenne efficace et qui a permis de maintenir des produits de qualité dans le monde agricole. Simplement, pour les produits non agricoles, je pense au couteau de l'Aïole, au vase d'Anduze, ne serait-ce que pour notre région, au grenat catalan, on n'a pas de protection. Et on a vu avec le cadre de l'Aïole qu'on peut avoir quelque chose qui relève, on va dire, de la contrefaçon, même si justement, comme il n'y a pas de protection, il n'y a pas de contrefaçon. Et donc l'idée, c'est que l'Europe, comme elle le fait pour les produits agricoles, mette en place une protection pour les indications géographiques pour les produits non alimentaires. Et c'est quelque chose que je défends au Parlement européen. Je suis rapporteur pour proposer un cadre européen de reconnaissance de ces indications géographiques. Et je l'espère, mon rapport sera voté à la rentrée au Parlement européen pour avancer dans ce sens-là.
Je pense que c'est un travail de longue haleine et de longue lutte que vous menez là, parce que je veux bien croire que peut-être même certains pays européens ne se gêneraient pas de faire de la contrefaçon. On parle beaucoup des ex-pays de l'Est, de la Pologne et ainsi de suite, qui de temps en temps se laissent un peu aller sur certaines contrefaçons.
Eh bien, en fait, ces pays sont aussi demandeurs d'une protection pour leurs produits. Donc aujourd'hui, on a un assez large consensus de la plupart des États pour aller dans le sens de cette protection. Parce que, en fait, c'est une préoccupation qui est partagée par énormément de pays. Ce sont souvent des petites entreprises, voire des très petites entreprises, avec des savoir-faire qui correspondent à des territoires, qui, avec un poids économique essentiel dans des territoires qui sont souvent ruraux, souvent fragiles. Et on répond à la fois à une préoccupation de protection des consommateurs, de développement économique, mais aussi d'aménagement du territoire. Et ce sont des préoccupations qui sont partagées par la grande majorité des pays européens. Même la Grande-Bretagne est favorable à cette mesure. C'est en particulier une demande des tailleurs londoniens qui se voient imités par les Chinois, alors que le savoir-faire des tailleurs londoniens est bien connu.
Mais revenons à nos régions, parce que, comme vous l'avez expliqué, le territoire est tellement vaste que chaque région a son identité et ses particularités. N'est-il pas difficile, voire impossible, pour une seule personne comme vous, de pouvoir défendre des projets aussi différents?
Oh, nos régions ont bien sûr des différences, avec des atouts qui varient. À Montpellier, c'est plutôt la recherche, le numérique. Bien sûr, sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, l'aéronautique est un facteur de développement économique majeur, mais ce sont trois régions partagent le fait d'être des régions dans lesquelles l'agriculture est, par exemple, quelque chose d'une dimension très importante. Ce sont aussi des régions pour lesquelles le développement touristique est quelque chose de très important. Et nous partageons aussi une culture, un certain art de vivre aussi. Et non, vous savez, les préoccupations au niveau européen sont largement réconciliables. Et je m'attache vraiment à défendre l'ensemble des citoyens de ces trois régions sans exclusive.
Et sur un plan beaucoup plus pratique, la difficulté n'est-elle pas justement au Parlement européen de pouvoir s'exprimer compte tenu des différences de langue?
Aujourd'hui, la possibilité est donnée aux députés de s'exprimer chacun dans leur langue, et pour moi c'est essentiel, puisque sinon c'est vraiment ça le sens de la démocratie européenne, c'est que chacun puisse s'exprimer avec la richesse et la finesse qui est propre à la langue qu'il maîtrise le mieux. C'est vrai que c'est aussi une frustration dans les débats. On a des débats qui sont peut-être moins spectaculaires qu'on peut les avoir dans les parlements nationaux. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir des débats peut-être plus posés, plus respectueux. C'est bien sûr une difficulté qui doit être surmontée quand on sort de l'hémicycle et qu'on doit discuter, négocier avec des collègues dont on ne maîtrise pas nécessairement la langue. En cela, j'ai la chance de parler l'anglais, l'espagnol, ce qui offre un éventail de possibilités plus large. Et je dois dire que, du coup, les relations avec mes collègues d'autres pays européens s'en trouvent largement facilitées et très agréables.
Vous parlez de frustration. Ma question va être un peu béotienne et un peu stupide. Est-ce que vous préférez être députée européenne que députée nationale ?
Oui, définitivement. Pour moi, c'est vraiment le mandat de mon cœur. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé au Parlement européen au moment du déclenchement de la crise de la zone euro. Et c'est vrai que l'Europe qui s'est exprimée et qui s'est manifestée à ce moment-là, une Europe austéritaire, punitive, où j'entendais des discours expliquer que les Grecs méritaient le sort qui leur était fait, ça n'est pas du tout ma conception de l'Europe, qui pour moi doit être une Europe solidaire, une Europe des peuples, une Europe politique aussi. Et pas uniquement une Europe budgétaire. Et donc j'avais en tête au moment où je suis partie l'idée peut-être qu'un jour je voudrais en tout cas de retourner au Parlement européen. Ça s'est réalisé très vite et j'en suis ravie. C'est pour moi un mandat formidable dans lequel se dessine aujourd'hui l'avenir de l'Europe. Nous sommes dans une situation difficile, mais c'est d'autant plus passionnant d'être aujourd'hui en responsabilité pour essayer de défendre l'Europe à laquelle je crois.
Dernière question, quel est votre vœu pour l'Europe ?
Que l'Europe se donne enfin les moyens d'être le rêve qu'elle doit pour moi représenter, à savoir une Europe solidaire, une Europe des peuples européens, d'une union des peuples européens pour un même projet et pour un avenir construit en commun.
Madame Rosière, je vous remercie de ce long laps de temps que vous nous avez accordé. Je peux me permettre de vous poser une autre question, parce que vous dites que vous êtes ainsi, non pas à la disposition, car vous n'êtes pas à la disposition, mais que les citoyens peuvent vous rencontrer. Est-ce que tout un chacun peut venir à votre permanence, quand vous êtes présente, bien évidemment? Comment peuvent-ils le faire? Faut-il prendre rendez-vous? Quelle est la démarche? Ou bien ne recevrez-vous que des groupes de citoyens?
Pour, effectivement, c'est plus facile de recevoir des groupes parce que 9 millions d'habitants sur la circonscription qui est la mienne, ça demanderait beaucoup de rendez-vous individuels. Néanmoins, mes coordonnées sont disponibles sur mon site qui est www.virginierosière.eu. Vous y trouverez mes coordonnées. Il est toujours possible de me solliciter, le cas échéant, de me rencontrer ou de rencontrer mes collaborateurs. Et puis, c'est aussi le moyen d'être informé des différentes réunions, des différents événements auxquels je participe, que j'organise justement pour mieux faire connaître l'Europe et à ce moment-là d'avoir un contact direct. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'avoir ce contact, d'avoir ce dialogue permanent avec les électeurs et les citoyens.
Eh bien nous, en tant que modeste radio de Montpellier, nous y contribuerons, je l'espère. Merci encore.
Merci à vous.
Donc à la fin de la conférence débat de Madame Rosière, en présence des premiers 4 lycéens qui étaient venus avant la conférence, je leur posais la question que j'avais précisée, à savoir qu'après cette conférence, quelle est leur vision de l'Europe ? Margot, qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de l'Europe ?
On a l'impression que c'est quelque chose un peu loin, un peu moins concret, et on se rend compte que finalement ils font beaucoup de choses dans la vie de tous les jours et que Madame Rosière, elle représente vraiment notre région au niveau européen pour qu'ils puissent apporter des améliorations au sud de la France, alors que c'est représenté au niveau européen qui est un peu plus grand, et puis on se rend compte que ça a quand même un poids assez important dans le reste du monde.
Merci. Romain ?
Moi c'est un peu pareil que ce qu'a dit Margot, on se rend compte que vraiment l'Europe elle cherche d'une part à améliorer la situation de tous les pays de l'Union, mais elle veut aussi, surtout le parti de Madame Rosière, elle cherche à créer un état assez fédéral pour que vraiment tout se partage dans l'Europe. Et ce qui m'a aussi marqué c'est vraiment que cette députée, elle a l'air vraiment passionnée. Quand elle nous parle, on comprend vraiment. Elle n'utilise pas des termes compliqués. On la suit du début à la fin, et c'est ça qui nous fait un peu plaisir à nous, parce que elle essaye de se mettre à notre niveau, de faciliter les choses pour qu'on comprenne et qu'on se sente plus concerné.
Moi, sincèrement, au début, je pensais que les députés c'était plutôt des gens très dans la politique et tout ça, mais en fait elle est très accessible et elle m'a permis de comprendre qu'en fait l'Europe c'est quelque chose vraiment de concret. Par exemple, pour nos régions, même pour la France, ça amène des projets très utiles, comme les indications géographiques contrôlées, tout ça. Et je pense que ce serait peut-être encore mieux de continuer sur cette voie-là, vers, comme elle a dit avec son parti radical, plus de fédéralisme en Europe.
Oui, aujourd'hui on a vu une meilleure... On s'est renseigné sur nos cours en fait. Parce que même si on en parle en cours, c'est plus facile d'apprendre avec elle, vu qu'elle est très concernée. Et on voit que l'Europe va se développer très vite dans un futur proche. Et qu'on va vivre dans un nouveau monde.
Merci. Question pratique, est-ce que ça déclencherait chez vous une envie justement de vous investir en politique, Margot?
Je sais pas, parce que ça avait l'air vraiment compliqué. Elle a l'air de dire qu'elle court partout, à droite, à gauche, pour gérer tout ça. Elle a fait des études vachement compliquées pour pouvoir arriver là. Pourquoi pas, mais ça a l'air vraiment très difficile.
Romain ?
Moi, je pense pas. J'ai beaucoup d'autres projets pour plus tard. La politique, j'y pense pas du tout.
Léa ?
Moi, je me vois pas vraiment faire de la politique. Ça m'intéresse, mais je pense pas que j'aurai quelque chose vraiment d'utile à apporter, en fait.